bientôt à table.
On dit que l'apéritif attaque le foie. Or, tous les apéritifs sont faits avec des plantes. Asseu, gentiane, sauge, anis, orange, plus l'alcool.
Ah, Carlo, Marius, Rému et sa gouaille pour nous parler d'apéro selon Pagnol.
Oui.
Je ne sais pas si la science va tester les propos.
Avec modération, on va avoir des ennuis.
Mais en ce qui nous concerne, l'équation aujourd'hui, elle nous plaît bien, d'autant que ce matin, on s'intéresse à une boisson synonyme de l'apéro de l'été, le...
Pastis.
Exactement,
monsieur.
Un breuvage mythique. 800 millilitres de cette boisson bu en Belgique chaque année.
Et pourtant, il n'y a pas souvent du soleil.
Non, et vous savez qu'à Marseille, on le dit... À Marseille, le pastis ne se boit pas, il se vit. C'est joli, hein ?
Oui, il se vit avec, on va le répéter, avec modération, parce que j'aimerais bien qu'on soit toujours là la saison prochaine.
Bon, alors, cap sur Marseille, au 16 rue Saint-Pierre, dans le 6e arrondissement de Marseille. Là-bas, une distillerie fondée par Guillaume Strebler. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Comment allez-vous, là, en ce mois de juillet ? Faites-nous rêver, faites-nous... On n'a pas l'odorama, mais qu'est-ce que vous sentez, là, autour de vous, avec toutes ces cuves de macération de pastis ?
Je sens les plantes méditerranéennes... Je sens l'anis,
ouais.
Puis on sent aussi la chaleur. Mmh. Après, le soir, on a un peu plus de fraîcheur, c'est un peu plus agréable.
Ah, alors, racontez-nous. On veut tout savoir sur le pastis. Il se dit, Guillaume, que le pastis doit tout à l'absinthe, une boisson qui a connu un succès phénoménal à un moment, qui a même largement devancé la consommation de vin en France. Et donc, cette boisson a été interdite. Et là, ça a été l'aventure et le démarrage de la production de pastis.
Oui, exactement. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plusieurs fabricants d'absinthe se sont retrouvés un petit peu démunis, pour pouvoir fabriquer, commercialiser leurs boissons. Beaucoup de consommateurs aussi étaient un petit peu perdus. Et du coup, ils ont décidé de se consacrer aux anisettes, donc des boissons anisées, sachant que dans l'absinthe, il y avait déjà de l'anis. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que vous avez quelqu'un qui s'appelle Paul Ricard.
Ah, on connaît un petit peu, on connaît.
Oui,
un entrepreneur marseillais, fils de négociant en vin d'ailleurs.
C'est ça exactement, qui avait l'habitude de boire une boisson locale qui était fabriquée un petit peu par tous les paysans du coin, qui était un pastis. En gros, c'était un mot français pour dire un mélange. Donc c'était une boisson alcoolisée avec plein de plantes et dont de l'anis. Et il avait un peu le nez fin, il s'est dit, à mon avis, il y a quelque chose à faire, il va y avoir possibilité d'en créer un grand produit. C'est comme ça qu'est né, le pastis moderne, avec l'identité qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une boisson méditerranéenne, marseillaise.
Mais alors, c'est vrai que concernant Paul Ricard, bon, il est devenu évidemment emblématique, connu de tous en Belgique, très très connu aussi, mais son coup de génie, c'est vraiment le côté marketing. Il parle même du véritable pastis de Marseille, et hop, une cartouche pour les concurrents, notamment Pernod. Et il associe aussi cette boisson au sud, à la Provence, aux vacances, et c'est là le coup de génie quand même de Ricard, non ?
Oui, absolument, parce que je crois que ça correspond à peu près au moment des congés payés, l'arrivée du pastis. Et puis lui, il avait vraiment une volonté, il voulait que, en fait, il considérait que c'était aussi, un artiste, il faisait un peu de peinture, il avait fait les Beaux-Arts, et il voulait, comme les peintres, signer, et du coup, c'est pour ça il voulait que son nom surplante l'appellation pastis. Donc c'est vraiment... C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va dans un bar, on dit un Ricard.
Un Ricard plutôt que... Mais donc,
voilà,
Guillaume...
C'est devenu un nom générique, presque.
On peut dire finalement que Paul Ricard, ni Pernod, personne n'a inventé l'anisette, mais en revanche, on a inventé son succès commercial. C'est-à-dire qu'on a rebondi sur l'interdiction de l'absinthe, une forme de prohibition à l'époque, basée en plus sur des éléments scientifiques. Enfin, il y avait un élément quand même, c'est qu'il y avait un taux d'alcoolisme dans la population énorme. Ils ont finalement inventé le pastis moderne, ça vous l'avez dit, mais surtout ils ont inventé le fait de le vendre.
Oui, c'est devenu une boisson à la base qui était plutôt consommée localement, et puis Paul Ricard a fait partir des VRP, etc. dans toute la France, et c'est devenu une boisson avec un emblème méditerranéen, mais qui est devenu national.
Alors évidemment, aujourd'hui, Guillaume, de très grandes marques dominent le marché. Ricard, évidemment, Pernod et son fameux pastis 51. Vous savez d'ailleurs pourquoi il porte cette mention 51, Carlo ?
Oui, c'est parce qu'il y avait un maximum d'alcool qu'on pouvait autoriser, je pense, dans le...
Alors ça, c'est pour le Pernod.
Ah,
45, le 51 fait référence à la date... où la publicité pour le pastis a été autorisée.
Ah d'accord, voilà, mais je savais qu'il y avait une histoire, voilà. Quelque part une histoire de degré d'alcool, parce voilà. Que l'absinthe aussi, elle était aussi considérée comme largement surdosée. Cela dit, 45 ouais. degrés, c'est beaucoup.
C'est pas mal. Alors, c'est vrai que... Et puis, il y a aussi toutes les marques de distributeurs, Duval et d'autres. Mais ce qu'on doit évidemment signaler, et là, ça vous concerne, Guillaume, c'est que depuis quelques années, ce pastis connaît un véritable renouveau en France, porté par des distilleries artisanale, des artisans, je peux lire, qui réinsufflent une nouvelle vie à cette boisson. Il y a notamment Caragaï, Henri Bardouin, très connu, il y en a plein d'autres, mais il y a aussi vous, Guillaume. Racontez-nous cette histoire, parce que vous n'étiez pas producteur de spiritueux au départ, pas du tout même.
Non, pas du tout. Ça naît d'une volonté de changer de vie professionnelle et avec une... un intérêt pour les alcools, les spiritueux, mais comme je voulais pas travailler dans le monde du service, je me suis plutôt orienté sur la fabrication et je suis allé retrouver des amis qui avaient une brasserie artisanale à Marseille pour travailler un petit peu déjà dans cet univers et puis on a décidé de créer la petite sœur, si je puis dire, avec la distillerie. Et étant basé dans le quartier de la Plaine, on a logiquement donné le nom de distillerie de la Plaine avec comme premier produit le pastis de la Plaine.
Mais il y avait aussi une production de whisky, etc. Mais vous êtes rendu compte que ça prenait beaucoup plus de temps, hein. Donc vous
c'est
avez
ça,
dit
effectivement.
Voilà. Mais alors ce pastis, on va quand même essayer de revenir aux bases parce que pour vous ça semble très simple. Mais de quoi est-ce qu'on parle ? On parle d'une boisson de macération, d'une distillation ?
Alors on peut parler des deux en fait. Ah. Le pastis c'est une boisson alcoolisée, aromatisée avec de l'anis et de la réglisse. Ça c'est les
deux bases, oui.
De base, c'est ça. Alors, la réglisse, vous n'avez pas le choix sur le côté anisé. Vous avez la possibilité de varier. Vous pouvez utiliser de l'anis étoilé, qui est la badiane. Vous pouvez utiliser du fenouil, vous pouvez utiliser de l'anis vert. Et après, vous avez la possibilité de rajouter d'autres plantes, si vous le souhaitez. À la distillerie, on propose plusieurs pastilles différents. On en a un qui est assez classique, anis réglisse, un autre un peu plus herbacé avec... de la verveine, du maté, du poivre. C'est un pastis un peu plus original, un peu plus de dégustation. Et puis, on en a un troisième qui est une sorte de... une mauresque revisitée, la mauresque...
Avec le sirop d'orgeat.
Exactement. Ah, une façon très agréable de boire du pastis. Et donc là, pour simuler ce côté amande, on utilise la fève tonka avec un peu de fleur d'oranger.
Oui, donc on
n'est
pas
des possibilités.
On n'est pas limité dans le choix des herbes, mais donc on est dans le domaine de la macération. Donc vous prenez vos herbes ou vos grains, je ne sais pas du tout. Voilà. Vous allez macérer dans quoi ? Dans de l'alcool ?
Dans de l'alcool, effectivement. Ouais. L'alcool va extraire les parfums, la couleur, les arômes, etc. Et après, on filtre, on peut assembler et on peut avoir un pastis. Alors, c'est possible aussi de faire par distillation, qui est une autre méthode d'aromatisation. C'est possible aussi. Ça, c'est après, c'est au choix des producteurs.
Mais ce n'est pas obligé, la distillation.
Non.
D'accord.
L'alcool, pas obligé, non.
L'alcool de départ, Guillaume, on part de quoi ?
Alors, c'est un alcool surfin, donc c'est-à-dire c'est un alcool très concentré en alcool, neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment un goût particulier. Ce qui a un intérêt pour nous, c'est qu'on va pouvoir vraiment mettre en avant les saveurs des plantes.
Mais donc un alcool de grain.
Alors de grain, c'est
betterave.
Possible d'avoir de betterave et aussi de raisin.
Ça peut être de l'alcool vinique, oui, ok.
Voilà, oui. Ben nous, on est dans une région de vin, donc on peut trouver de l'alcool issu du travail du vin. C'est vrai que si on se trouvait dans le nord de la France, ce serait plutôt la betterave.
Oui.
Mais voilà, c'est assez des spécificités régionales, disons.
Et alors, j'ai une question tout à fait anecdotique, mais qui me passionne depuis longtemps. C'est quoi qui trouble, à part l'eau, évidemment, trouble le pastis ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment l'anis en lui-même ? Parce
c'est
que, par
l'huile.
Exemple, l'ouzo ou la sambuca se troublent également, et c'est principalement de l'anis.
Ça porte un nom, d'ailleurs, le fait que ça se trouble. Je l'ai oublié, d'ailleurs.
C'est le louchissement.
Voilà, le louchissement.
Le louchissement, j'adore. Ouais.
Oui, mais c'est assez rigolo comme terme.
Je vais la refiler.
En fait, moi, j'ai entendu dire que c'était de l'ajout d'une huile qui permettait ce louchissement. C'est vrai, ça ?
Exactement.
Ah, ben
exactement,
voilà.
Oui. Ça, c'est quelque chose qui est hérité de l'absinthe. Parce que l'absinthe, la boisson absinthe se trouble aussi. Il y a ce phénomène de louchissement.
Ouais.
Parce que, en fait, dans l'anis, dans toutes les plantes anisées, vous avez de l'anéthol. Donc c'est en fait, l'absinthe était un produit qui est distillé. Donc, il y avait une extraction par distillation de cet anétol. Et en fait, c'est un phénomène chimique. En fait, ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez votre anétol qui se mélange très bien avec l'alcool. C'est parfaitement miscible. Et pour ça, quand on sert son pastis sans eau, ben on va à travers. Et dès qu'on rajoute de l'eau et qu'on descend en dessous d'une certaine concentration d'alcool, il y a une émulsion, c'est-à-dire que l'anétol se sépare de l'alcool et fait ce trouble, ce louchissement.
D'accord. Et ça peut être, par exemple, de l'huile de badiane ou quelque chose comme
voilà,
ça.
Badiane, oui. Fenouil. D'accord. Pour ma part, j'utilise les deux. Ça dépend. Okay. Vous avez
donc,
la possibilité.
Vous rajoutez de l'huile, si je puis me permettre.
C'est ça. C'est une huile essentielle. Oui, effectivement.
Oui.
Alors,
oui, oui.
C'est réglementaire.
Oui.
Disons qu'il y a un règlement, on a des taux à respecter. Et puis, en fait, dans l'imaginaire collectif, un pastis qui ne se trouble pas, bah, ce n'est pas un vrai pastis.
Et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas.
Après, en termes de saveur, ça n'apporte rien par rapport à les plantes qu'on utilise. C'est vraiment pour l'aspect visuel.
Mais donc, Guillaume, si je comprends bien, et puis après, évidemment, on pourra passer à autre chose, mais si je comprends bien, si on fait une infusion d'anis vert ou de badiane sans rajouter de l'huile essentielle, on n'a pas le louchissement.
Non.
Bravo. Oui, on a appris un mot, c'est quand même chouette.
Mais oui, c'est génial.
Le louchissement.
C'est pas sorcier, pardon.
Dites, alors, moi, je voudrais quand même vous poser une question que je me suis forcément toujours, et que je me pose toujours chaque fois que je consomme. C'est, quelles sont les différences entre les procédés des industriels et des procédés artisanaux? Je lisais une interview vous concernant, Guillaume, vous disiez, notre philosophie, c'est la lenteur, le geste et l'attention aux détails. La lenteur. En quoi la lenteur est différente entre vos deux approches?
Déjà de prendre son temps et d'avoir une meilleure extraction, d'aller en profondeur dans les saveurs. Pour ma part, on utilise des plantes seulement, pas d'arômes, pas de colorants. C'est notre spécificité. Après, sur les méthodes industrielles, malheureusement, je ne pourrais pas trop en parler parce que je ne connais pas chaque maison, garde un petit peu ses secrets.
Oui, c'est ça, mais on peut y ajouter des colorants, des additifs,
absolument,
du sucre, c'est de nouveau le même topo.
Mais
pour
du sucre, il y en a de toute façon.
Oui, mais je pense
que
là,
c'est... Oui, il y en a un petit peu, effectivement. Oui. La plupart des pastis sont sucrés, j'en connais qu'un seul, à ma connaissance, qui ne l'est pas.
Oui.
Et voilà, comme c'est un apéritif, oui, c'est un pastis fait à Paris par un confrère. Mmh. Voilà, c'est sa petite spécificité. Mais la plupart le sont un petit peu, c'est un apéritif, donc ça, on cherche un peu de douceur quand même. Alors, c'est pas sucré comme une liqueur, par
c'est
exemple.
Ça.
Voilà, ou là, ça peut être, c'est plutôt en fin de repas.
Oui, mais donc le pastis n'est jamais indigestif quand l'on boit pur.
Alors, théorie, non.
Ah, on pourrait avec des artisanaux.
Ça
par
peut
exemple
devenir de la sambouca. Je reviens avec ma sambouca.
Voilà, exactement. Mais c'est la même famille, donc on pourrait. Hein. Si vous passez à Marseille, à notre boutique, on pourrait les déguster. Vous verrez que sans eau, c'est très agréable aussi. Alors, pareil, c'est des boissons alcoolisées fortes.
Ouais.
Mais en liqueur, c'est très intéressant aussi. Ou juste avec un petit glaçon qui vient
trop
doucement refroidir et diluer lentement, c'est très agréable aussi.
Et en matière de service, quelle est la proportion eau pastis dans les versions classiques?
Alors, version classique, c'est une dose de pastis pour 5 doses d'eau.
D'accord.
C'est trop de liquide.
Voilà. Alors après, ça dépend des gens. Je connais des gens qui aiment juste aromatiser l'eau, donc ils en mettent vraiment un tout petit peu. D'autres qui aiment bien quand c'est tassé. Voilà, c'est après c'est vraiment propre à chacun. Souvent d'ailleurs on laisse la personne se servir son eau parce que on évite que ça soit trop noyé ou etc.
Je peux vous poser une question, ça va peut-être vous mettre un petit peu mal à l'aise, mais que pensez-vous de ces pastis produits par les grands industriels, dont notamment Ricard, quand on est comme ça producteur artisanal et qu'on essaye d'insuffler une qualité optimale à ces boissons? Est-ce qu'on se dit, oh non, ça va pas ce qu'ils font? Ou ça va, c'est potable, buvable?
Alors ça dépend des marques. Hein. Il y a je dirais que des marques comme le Ricard, le Pastis 51 de cette taille, ça reste des apéritifs corrects. Mmh. Après, vous avez des marques un peu plus bas de gamme, là où c'est vraiment pas très intéressant en termes de saveur. Vous pouvez vous amuser à faire la comparaison. C'est beaucoup moins où on rajoute, souvent ils rajoutent que des arômes, c'est pas très intéressant. Mmh. Alors après, on se complète, c'est-à-dire que le Ricard, c'est quand même un produit qui est énormément vendu. En grande surface, moi, c'est un produit qui est plutôt chez les cavistes et c'est artisanal. Donc, on n'est pas du tout en concurrence directe. Et grâce à Ricard, le pastis est connu, on va dire, au moins dans toute la France.
Oui,
voire
bien
plus.
Sûr.
Donc, on ne va pas non plus nier ça.
Sophie, sans vouloir encourager nos auditeurs à une consommation excessive, ce que j'ai envie de dire, et je parle évidemment sous votre contrôle, Guillaume, aux personnes qui disent « Ah, je n'aime pas le pastis, je n'aime pas le goût d'anis », c'est que quand on se lance un petit peu dans la dégustation, même tout à fait comme ça, anecdotique, de pastis artisanaux, on s'aperçoit que l'anis et la réglisse sont un des composants du produit, mais que la complexité aromatique apportée par les autres herbes donne justement un intérêt vraiment totalement différent à la boisson. Je vais pas parler de ma vie, mais moi, les pastis de base, ça m'a jamais excité. Je peux en boire à l'apéro, je vais pas faire ma difficile. Mais vous êtes d'accord, Guillaume, que peut-être que c'est une façon d'amener les consommateurs à déguster le pastis quand ils croient ne pas aimer ça?
Oui, absolument. Oui, oui. Lors de mes dégustations, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'arrive encore que les gens au début rejettent en disant « Ah non, j'aime pas le pastis, j'ai mauvais souvenirs » et découvrent que la pastis, ça peut être de la douceur, ça peut être de la complexité. C'est pas juste quelque chose qui peut être assez fort et qui peut être avoir une attaque, un côté âpre en bouche et tout ça. Voilà, donc il faut tester. Ou alors, si vraiment on veut essayer, on veut y arriver, boire avec un risque, par exemple, c'est une façon d'amener un peu plus de complexité, plus de douceur.
Mais oui, c'est comme démarrer par la découverte du chocolat industriel et puis passer vers des chocolats d'artisans. Il y a autre chose, c'est souvent moins sucré. Enfin voilà, c'est là qu'on fait les découvertes. Mais juste une petite chose avant de vous laisser vaquer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de boulot en cette période estivale. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'appellation d'origine protégée pour ce pastis. Il peut être produit ailleurs que dans votre bassin marseillais et provençal.
Absolument. Comme je vous disais, j'ai un ami qui en fait à Paris, vous pouvez en retrouver au Havre. Peut-être je crois qu'il y en a même en Belgique.
On va en parler, on en a à Liège et on en a même dans le Pajottenland. On va en parler dans quelques petites secondes, donc vous me lancez là une très jolie perche. Petit dernier conseil, Guillaume, pour nos auditeurs. D'abord, est-ce qu'on peut venir découvrir votre distillerie de la Plaine à Marseille?
Alors oui, c'est possible. Alors on a déménagé par contre là parce qu'on est devenu un peu plus grand.
D'accord.
Mais c'est possible de visiter. Il faut nous écrire sur nos réseaux.
D'accord.
Et c'est une possibilité effectivement.
Voilà, et c'est la distillerie de la Plaine, simplement. Et vous répondez rapidement, je peux le confirmer. Guillaume, merci beaucoup pour cette jolie découverte et vive le pastis. Merci beaucoup.
Vive la Belgique.
Merci Guillaume.
Bon Carlo, le louchissement maintenant. On sait ce que c'est.
On va voir si ça louchisse en Belgique aussi.
Alors,
Sophie,
comme Guillaume vient de nous le dire, le pastis ne jouit pas d'une appellation d'origine protégée. Ça veut dire qu'il peut être produit à d'autres endroits. On en trouve par exemple dans l'Aveyron, sur l'île de Ré, à Liège. On a le fameux pastis ardent qui est fabriqué à Sprimont avec une douzaine de plantes et épices. Et puis, on a aussi un pastis dont on entend beaucoup parler chez nous. C'est le pastis de Corte. Meneer Manu de Corte est avec nous ce matin. Bonjour Manu.
Bonjour.
En vacances, dans les Vosges, dans les montagnes, avec du pastis?
Ah oui, bien sûr, ça peut pas manquer.
Comme on dit chez nous, vous le prenez avec.
on le prend avec, oui,
alors,
certainement.
Manu, je suis très contente de vous avoir parce que j'ai déjà eu l'occasion de découvrir vos productions. Au niveau, il faut quand même bien le signaler, cette distillerie de Corte, c'est une entreprise familiale située à Pépignan. On est dans la région du Pajottenland, en région flamande. Manu, parlez-nous de vous, Manu. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à devenir distillateur d'abord?
Oh, je distille déjà longtemps, mais on sait, c'est dans des petits cuves, dans le CAF. À un moment, on a commencé à distiller vraiment sur une échelle un peu plus grand, parce qu'on avait beaucoup de fruits, des poires et des pommes chez nous.
Oui, Pajottenland.
Mais à un moment, la Russie, elle voulait plus les poires. On disait, on a si beaucoup de poires, qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, on a commencé à distiller des eaux de vie. À partir des eaux de vie, ça vient des gins, et à partir des gins, ça vient des vodka, et du vodka, ça vient du genièvre. Et à un moment, en 2017, il y avait une demande. On avait un tout petit bar de gin tonic. Il y avait une demande, un événement à côté de chez nous, un festival, qui disait « Est-ce que tu peux venir faire des gin tonic sur notre festival ?» Et oui, bien sûr, avec plaisir. Il disait « Oui, mais on a aussi un petit tournoi de pétanque. Est-ce que tu pouvais faire du pastis là-bas ?» J'y disais à eux, mais je ne fais pas du pastis. Oui, mais bon, achète un peu des bouteilles. Je ne vais pas dire la marque, mais
on connaît
bien. Achète un peu des bouteilles. Je dis, mais je suis distillateur, je ne vais pas, vais pas faire n'importe quoi. Je vais faire du pastis. Alors, je rentre chez moi à la maison. Je dis à ma femme, je vais faire du pastis. Elle commence à rigoler avec moi. Parce que, tu n'aimes pas le pastis? Elle dit, oui, je sais bien. Mais ce n'est pas que j'ai quelque chose contre l'anis, j'aime bien l'anis, mais j'aime pas l'anéthol qu'ils utilisent dans le pastis. Et l'anéthol, c'est une huile, et une huile, ça arrache.
La
fameuse huile essentielle qu'on rajoute notamment pour le louchissement du pastis.
Ça devient trouble.
Voilà.
Ouais, que ça vient trouble, parce que le l'huile, il peut se dissolver parfaitement dans l'alcool, mais pas dans l'eau.
C'est ça.
Et comme ça, je disais, ok, je vais pas utiliser d'un étoile, parce que je n'utilise jamais des arômes chez moi à la distillerie. Ça doit être vraiment des vraies plantes. J'ai commencé à distiller une partie, c'est une macération, une autre partie, c'est une distillation de badiane, oui, de poivre noir et de cardamome noir.
Voilà. Oui, parce que Guillaume nous le disait il y a un instant, on n'est pas obligé de distiller, hein, ce n'est pas une obligation, mais vous distillez. Donc il y a la macération des plantes, Manu. Quelles sont les plantes que vous utilisez dans votre pastis made in Belgium?
Il y a 13 dedans. Bien sûr, il y a l'anis, il y a les grains de fenouil, il y a le coriandre, la réglisse, cannelle, le cardamome, le poivre noir, le clou de girofle. Alors c'est beaucoup plus que seulement de l'anis.
Et de la réglisse aussi, hein ?
La réglisse aussi,
oui, d'accord. Donc les deux ingrédients de base historiques sont présents, mais accompagnés
avec
de
du plus.
Plein d'autres choses. Okay.
Oui. Et donc, on fait ça aussi 100% bio. Hein. Aussi l'alcool vient des grains bio et aussi tous les épices.
Mais donc, au final, on a un produit, Manu, qui, quand on ajoute des glaçons dedans, reste de la même transparence, c'est ça ?
Ça vient un peu cloudy, on dit.
Nuageux.
De l'huile, les autres épices qui vont se dissolver dans l'alcool pendant la macération.
Ouais.
Ça ne vient pas comme, laissons dire, du lait.
Ouais.
C'est pas blanc.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de développement de ces pastis artisanaux. Hein, on en a parlé il y a un instant. Il y a notamment la fameuse distillerie Garagaille par Maxien Dubois. Il y a le pastis Henri Bardouin, il y a le pastis 12-12, il y a le pastis des Alpes, l'anis des Gaunes. Donc, ça se développe. Qu'est-ce qu'il a de particulier, votre pastis belge? Est-ce qu'il parle du terroir belge, des plantes belges, par exemple?
Il y a aussi des plantes belges qu'on cultive nous-mêmes, même autour de la ferme. Mais ce n'est pas aussi beaucoup.
Ça.
On doit être honnête.
Ouais.
La plupart des plantes viennent, bien sûr, aussi de la sud de France.
Oui, c'est ça.
J'ai même appris que pastis, c'est un mot dialecte qui veut dire mélange.
On en a parlé tout à l'heure.
Exactement. Oui. Alors, votre pastis a remporté, Manu, une médaille d'or au World Trophy 2021, si je ne m'abuse. Comment est-ce qu'on va le déguster, votre pastis, Manu? Est-ce qu'on peut le boire pur, comme nous le disait tout à l'heure Guillaume, ou on doit forcément y rajouter de l'eau?
Moi, je préfère pur.
Ah oui.
Moi-même. Ou ma femme, par exemple, elle ajoute un glaçon, un glaçon.
Ouais.
Qui va se fondre un peu, ajouter de l'eau. Ouais. Et il y a des autres gens que je connais qui ajoutent la moitié de l'eau sur la moitié de pastis.
C'est ça.
Moi, je dis toujours, le moment que vous avez acheté une bouteille, c'est à vous de choisir comment le boire.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que pour les pastis industriels, effectivement, la tradition, c'est mélanger avec de l'eau. Et alors, je voulais vous poser une question, Manu. On connaît aussi l'appétence des Belges pour les accords mets et boissons. Est-ce qu'on pourrait boire un pastis tout au long d'un repas ou c'est un peu trop quand même?
Oh, moi, je ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas ça.
Un repas estival, méditerranéen.
Oui. Ouais,
on pourrait, Carlo.
On pourra.
De nouveau, si c'est pour boire à grand soif, probablement non, mais imaginons nous sommes en train de...
Allez, faites-moi rêver.
Par exemple, une salade de fenouil, une panzanella, du pan des tomates et même du jambon, parce que j'ai l'impression que le côté un peu gras et salé d'un jambon espagnol avec le pastis, je ne sais pas, moi je ne suis pas choqué. Mais bon, moi je trouve que, comme je bois peu, et je pense que nombre de nos auditeurs boivent de moins en moins, je trouve qu'un apéritif bien choisi peut accompagner un repas, notamment un repas de midi. Donc, que ce soit l'amertume ou les arômes, que ce soit un Campari ou un Spritz ou d'autres choses, ou des choses plus élaborées, un vermouth, par exemple, pour moi, ça peut accompagner les repas. Après tout, le vermouth, c'est de l'absinthe. L'absinthe est proche du pastis.
Oui,
le pastis,
c'est marrant, je pense tout de suite à un plat de pâtes avec des coquillages. On ferait flamber ça au pastis, du fenouil.
Ça sera peut-être peut-être un peu trop, mais en tout cas, essayez, Sophie.
Oui, donc on peut, Manu, donc on peut essayer.
Peut-être quelque chose d'un peu plus radical et plus salé, comme des pâtes, je sais que vous adorez ça, donc c'est pour ça que j'en parle, des pâtes aux sardines avec quelques graines de fenouil sauvage. On serait sur le plus salé.
Parce qu'il faut chercher
le salé quand même. Il faut chercher le
salé
pour contrebalancer le sucre.
Même un simple barbecue de sardines, Manu.
Voilà.
avec voilà. un bon oui. petit verre oui, de pastis,
peut,
là.
Ça peut être magnifique dans oh. les moules. Magnifique oh, aussi,
oui. Oui, 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 ouais. magnifique. Bon, et moi, j'ai envie de venir voir votre distillerie, Manu, cet été. On peut prendre rendez-vous pour aller la visiter ?
Vous êtes vraiment le bienvenu.
Oh, ça c'est chouette. Et donc ça s'appelle la distillerie de Corte, une entreprise familiale comme on les aime, installée dans une ancienne ferme fruitière. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un petit peu de vacances à deux pas de chez nous. C'est voilà. du bon, c'est du belge, c'est du pastis. Et je voulais absolument faire découvrir vos magnifiques productions. On va vous laisser profiter de vos vacances dans les Vosges, Manu. Et vous nous revenez vite avec de nouvelles productions l'année prochaine, j'en suis certaine. Merci beaucoup, Manu.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Voilà, Carlo, on va clôturer cette petite parenthèse pastifarienne.
Pastifarienne, très jolie. Bravo.
Et alors, je voulais juste terminer avec cette petite phrase signée Marcel Pagnol. Le pastis, ce n'est pas un apéritif, c'est une religion. On ne le boit pas, on communie.
Ah, c'est amusant parce qu'en plus, joli, hein. Marcel Pagnol, il a connu les débuts
Exactement,
du pastis.
Voilà.
Il à était suivre. Vite convaincu.
À suivre, puisqu'on parle de Pagnol et aussi de toute son œuvre cinéma, eh bien, on va parler cinéma avec Gabin, l'épicurien. C'est son petit-fils qui nous en parlait il y a quelques mois de cela. Et on va s'offrir un petit best-of juste après cette petite pause, les amis.